France Culture. h 13h30, les midis de culture. Marie Laborie.
Elle s'inspire de la Reine des Neiges, celle d'Andersen, hein, pas celle de Disney, pour son nouveau film La Tour de Glace. Lucila Dialilovic sera mon invitée à partir de 13h. Mais d'abord, comment prépare-t-on une rentrée littéraire quand on est libraire? Comment vit-on ce moment clé dans le monde du livre? Quelles sont les tendances? Les libraires ont-elles des chouchous? On va en parler tout de suite avec les principales concernées. Vous écoutez les Midis de Culture, mais quelle classe vous avez! Et pour cette spéciale rentrée littéraire, trois libraires ont accepté de venir dans le studio des Midis, trois libraires d'horizons différents qui travaillent dans des structures différentes, mais toutes indépendantes, et qui passent tout un temps fou le nez dans les livres. Héloïse Adam, vous travaillez à la librairie Albertine, sise sur le port de plaisance de Concarneau dans le Finistère. Bonjour.
Tout à fait. Bonjour Marie, merci pour votre invitation.
Et merci d'être présente autour de cette table. Brida Sitanen, vous êtes responsable adjointe de la librairie Mille Pages, c'est à Vincennes, et c'est la plus grande librairie indépendante d'Île-de-France. Bonjour.
Oui, bonjour, tout à fait. Merci de cette invitation.
Merci à vous. Et puis Marie-Rose Guarnieri, propriétaire de la célèbre librairie des Abbesses dans le 18e à Paris et fondatrice du Privé Plaire. Bonjour.
Bonjour. Et merci aussi de votre invitation.
Et bienvenue à toutes les trois.
Avant la grande rentrée littéraire de la saison nouvelle,
pour cette première émission de la rentrée littéraire,
et comme tous les ans, alors que les vacances d'été sont à peine terminées, le tintamarre de la rentrée littéraire bat son plein et nous allons découvrir comment, justement, nos libraires s'organisent devant l'avalanche des parutions.
Tous ces livres, ça peut vous donner le vertige.
De quoi affoler les critiques. Pas nécessairement les libraires. Vive la rentrée littéraire!
La rentrée littéraire s'étend sur une période qui va de mi-août à fin octobre. C'est une spécificité française. Plusieurs centaines de livres paraissent à chaque fin d'été. En l'occurrence, 484 romans sortent cette année. Et ils entrent donc en compétition pour séduire les lecteurs. Des lecteurs qu'on sait de moins en moins nombreux. Selon les résultats du baromètre 2025, les Français et la lecture, au cours des 12 derniers mois, 63% des Français déclarent avoir lu au moins 5 livres. C'est 6 points de moins qu'en 2023. Et la part de lecture quotidienne baisse également, moins 4 points par rapport à 2023, pour atteindre son niveau le plus bas depuis 10 ans. Mais la rentrée littéraire, c'est aussi celle des prix littéraires, à commencer par le prix de l'Académie française le 30 octobre prochain et le prix Goncourt le 4 novembre. Des prix qui, on le sait, peuvent augmenter fortement les ventes des livres primés. Bref, c'est donc une période cruciale pour le monde de l'édition et pour les libraires. Alors ma première question, c'est est-ce que ça reste un bon moment, la rentrée littéraire, Héloïse Adam?
Alors oui, c'est un excellent moment. C'est un moment où le cœur des libraires indépendants, je pense, bat un petit peu plus fort, parce qu'on sait que la littérature a, à ce moment-là, une sorte de caisse de résonance médiatique et qu'on a envie d'y répondre avec toute la passion et la sincérité dont on peut faire preuve. Donc oui, c'est un très bon moment. On est évidemment submergé. Les heures des journées ne se multiplient pas à mesure que les catalogues grossissent. Donc on ne peut évidemment pas tout lire, mais on sait que c'est des lectures qu'on va faire accompagnés de nos lectrices, de nos lecteurs, de nos collègues libraires aussi.
On a parlé d'affolement pour les critiques, et c'est vrai, hein, nous on est tous un petit peu affolés, on est submergés de livres au bureau. Marie-Rose Guarnieri, l'affolement il existe aussi, ou vous avez l'habitude maintenant?
Oui, il y a l'affolement, mais on sait aussi que dans cet affolement, dans cette production de 484 romans, on va choisir dedans. Et donc déjà, on a un parcours un peu de fond, qui est d'assister aux présentations de ces rentrées littéraires vers le mois de fin mai et tout juin.
Présentation chez les maisons d'édition?
Chez les éditeurs, avec les auteurs. On se rapproche de la flamme, on va dire la flamme de création. Mmh. Et donc, à partir de là, on commence, nous, à repérer, à diagnostiquer, comme les médecins, les livres qui vont se détacher, qui sont importants pour notre point de vente, pour notre sensibilité, les livres qui sont incontournables. Donc, on commence à dessiner progressivement les choses qu'on va lire. On va mettre de côté des choses qui vont être prévendues, qu'on n'a pas de travail à effectuer, et puis ceux qu'il faut vraiment tout de suite détecter et puis lire pour peut-être les mettre en avant, les soutenir et les faire connaître. Bien sûr, il y a les grands mastodontes, quand vous avez Emmanuel Carrère, Natacha Appanah, quand vous avez Mauvigné, quand vous avez Yakuta Alikovic, vous savez que ceux-là, ils seront en pile dans nos librairies, mais notre travail, de libraires indépendants, je pense que mes deux consoeurs vont confirmer, c'est de détecter ce qui n'est pas encore connu, voilà, et ce qui est en train d'innover, qu'il va falloir que nous, dans le paysage qu'on va déposer dans notre librairie des choses attendues, ben, il faudra qu'on glisse un point de vue qui est celui du point de vente dans lequel on se trouve et la sensibilité et le défrichage qu'on effectue.
Brida Citanel.
Oui, c'est vrai que Marie-Rose a raison en disant qu'on commence à préparer la rentrée littéraire dès le mois de mai. Et ce qui n'est pas évident, c'est qu'effectivement, on a tous ces bruissements de couloirs un peu avant sur les auteurs phares de la rentrée. Et le travail qui est, qui est un vrai défi, c'est à la fois d'avoir une connaissance de ces auteurs qui vont être mis sur le devant de la scène, mais aussi de faire ce travail de défrichage, pas seulement des premiers romans, mais aussi de tous ceux dont on ne parle pas tout de suite, en tout cas pas au mois de septembre. Je pense à, par exemple, Lola Gruber, je pense à Fabrice Imbert, oui, Laurent Godet, tous ces auteurs dont on ne parle pas forcément, mais que nous, on va devoir qu'on suit parce qu'on a une histoire avec eux à la librairie, mm-hmm, et qu'on va suivre et qu'on va accompagner en plus de, voilà, du travail de défrichage, du travail de suivi des auteurs connus, mm-hmm, qu'on doit quand même lire de toute façon.
C'est la question que je voulais vous poser, c'est est-ce que finalement vous ne dites pas, le Carrère, le Mauvigné, je vais peut-être pas le lire et je vais consacrer mon temps à trouver d'autres plumes peut-être dans cette rentrée littéraire.
On a envie de les lire quand même. Quand on a un Carrère, on a tout de suite envie de le lire, c'est même le premier qu'on a commencé à lire. C'est vrai que là, c'est les livres qu'on attendait, c'est des auteurs importants et majeurs. Mais c'est vrai que après le temps qu'il va falloir bien répartir dans les lectures, c'est d'abord travailler avec un collectif. Moi, je travaille avec un petit collectif de 12 lecteurs, c'est quand même de...
C'est-à-dire ça
Alors, ces 12 lecteurs, ce sont les lecteurs que nous recrutons depuis maintenant 27 ans pour la Privé Plaire Fondation de la Poste.
D'accord.
Donc, il y a deux journalistes, un libraire associé, Brinda a été une année avec nous, il y a une détenue, il y a des très grands lecteurs, et donc voilà, il y a une hétérogénéité comme ça d'un groupe qui va créer une dynamique de défrichage à mes côtés avec mes libraires. Donc voilà, ça c'est un enrichissement pour traverser ce moment et vraiment peut-être ne pas être dans nos plis de bien
habituel.
Habituel, parce qu'on a des préjugés en tant que professionnel, on dit c'est des maisons qu'on aime beaucoup, c'est des catalogues qu'on suit, et là c'est grâce à cette hétérogénéité, on se déplace un peu de nos lignes.
Alors donc, forcément quand on a ça dépend du lieu dont on dispose, quand on a une très grande librairie comme la librairie 1000 pages, oui, à Vincennes, ou votre librairie Héloïsa, donc qui est plus petite, je l'imagine.
Beaucoup plus petite.
Comment s'opèrent les choix? Parce que évidemment, c'est pas la même installation, c'est pas la même mise en avant des ouvrages.
Oui, tout à fait. Je pense que quand on est dans une structure effectivement petite comme la nôtre, les choix sont vraiment drastiques. Et je vous avoue que moi, je n'hésite pas à ne pas lire Carrère et Mauvigné à la rentrée. Je prête plutôt attention. Alors, comme le disait Brinda, il y a certaines autrices, certains auteurs qu'on a envie d'accompagner parce qu'ils ont besoin de visibilité. Il y a aussi des maisons d'édition avec lesquelles on a des liens particuliers. Alors, nous, on ne fait pas forcément les présentations de rentrée littéraire parce qu'on est souvent à 200 km de celle la plus proche.
Allez, parce qu'il faut bien réexpliquer ça. Les maisons d'édition vous invitent et vous permettent de rencontrer les auteurs.
Mais ils font en ligne maintenant. Vous pouvez y assister.
Oui, oui, c'est vrai.
En ligne. Ils font aussi des tournées en province.
Ils font des tournées.
Oui, il y en a en province.
Mais de tournée,
ça partout, et plusieurs centaines de kilomètres pour nous.
Voilà, ouais, assister en ligne maintenant, ils enregistrent et c'est filmé, vous pouvez donc entendre les auteurs.
Donc voilà, vous avez des maisons d'édition avec lesquelles vous avez des liens privilégiés.
C'est ça, ils sont souvent des maisons qui travaillent beaucoup avec les librairies indépendantes et donc qui sont attentives à ne pas avoir des rentrées trop chargées. Donc ça nous permet, la peuplade, j'ai lu toutes leurs rentrées littéraires, la contre-allée aussi. Voilà, il y a des maisons comme ça. C'est notre cœur de métier de leur donner une visibilité à côté de ce que ma collègue appelait les mastodontes qui évidemment seront là, mais notre personnalité elle est dans ce qui est autour.
Nos clients quand ils viennent, ils disent, bon alors vous, où vous êtes dans cette rentrée quoi, parce qu'ils entendent des tas
Il faut se situer.
Alors, et en plus, comme il y a une concentration effectivement, alors qu'il y a 480 membres, il y a une concentration de la réception un peu sur il y a 10-15 livres qui sont sur lesquels tout le monde met en avant ces 15-20 livres. Donc les lecteurs parfois aussi viennent chez nous pour dire bon, et vous, qu'est-ce que vous avez repéré? Alors, bien sûr, on va prendre le Carrère, bien sûr, on va prendre le Mauvigné, bien sûr, on va prendre le Yakuta, bien sûr, on va prendre Natacha Apana, mais nous, on aimerait bien savoir ce que vous avez un peu découvert, parce que c'est aussi un moment de faire émerger des nouvelles voix. Et puis des livres qu'on relevait dans la forme et dans leur style et dans leurs sujets, des choses un peu des ovnis qu'il faut absolument accompagner. Et là, la nécessité de ces librairies indépendantes à taille humaine, comme celle de nos trois librairies, c'est là qu'on a une force et on a une nécessité. On justifie notre particularité qui est inimitable. Voilà, c'est un travail qu'on a affirmé, chercher, défricher et d'affirmer nos découvertes.
Alors, cette rentrée littéraire 2025, là, est-ce qu'elle tient ses promesses? Elle vous semble bien partie, Brinda Sitanen?
Oui, absolument. On est toujours un peu enchantés, enfin, complètement enchantés par toutes les découvertes qu'on va faire. Moi, contrairement à ma collègue Héloïse, moi, j'ai une attention particulière aux titres dont on parle beaucoup. Ah oui. Parce que ce sont des titres sur lesquels on va nous demander notre avis. Est-ce que c'est vraiment bien? Est-ce que ça vaut le coup? Est-ce que c'est un bon carrère? Que pensez-vous du Mauvignier et le Natacha Appanah? Donc, évidemment que... Et puis, si on en parle, c'est qu'il y a quelque chose.
Oui,
c'est vrai que nous, on aime parce qu'on nous pose la question et puis on a envie aussi. Donc oui, c'est absolument un enchantement et qui se renouvelle d'année en année. Moi, c'est ma 20e rentrée littéraire. Et c'est vrai qu'à chaque fois, c'est un peu comme Noël pour les enfants. C'est et les nouveaux romans et les auteurs confirmés. Moi, je trouve que c'est un très très bon cru cette année, et je le dis pas, enfin voilà, de façon exagérée. Je pense que c'est très sincère. Hein.
Qu'est-ce qui fait que c'est un bon cru?
Je pense que la variété, la production est pléthorique de plus en plus. Ça, c'est vrai. Même si les éditeurs se disent qu'il faut qu'ils ralentissent, je pense que c'est pas évident de faire des choix. Mais bon, la production est pléthorique, donc on a moyen de trouver satisfaction. Et puis ce débat sur les livres qui parlent de la famille, c'est vrai. Mais il y en a toujours eu. Il y a toujours eu de la littérature qui parlait de la famille. C'est vrai que c'est un matériau biographique, enfin absolument extraordinaire. Pour la littérature. Oui, effectivement, je pense que ça parle à tout le monde.
Et vous avez donc, pour vous aussi, c'est une bonne rentrée, cette rentrée 2025?
Oui,
soyons honnêtes, en termes de vente et en termes de qualité.
Ouais.
Alors, je ne sais pas si on a la visibilité pour parler en termes de vente. En tout cas, en termes de qualité, je crois que de toute façon, je suis tellement curieuse de la création littéraire que je pourrais vous dire avec beaucoup de sincérité que chaque rentrée me ravit par sa diversité. Je suis très intéressée par celle-ci que je trouve... Alors oui, effectivement, on entend beaucoup parler des histoires de famille. Moi, je trouve que c'est une rentrée qui est particulièrement hantée, c'est-à-dire habitée de fantômes. Il y a beaucoup question de fantômes familiaux, de la trace que les défunts laissent en nous, mais il est aussi question de maisons hantées, qu'on soit dans le rayon de littérature générale ou en littérature de l'imaginaire ou en jeunesse. Il y a des enquêtes formidables sur des écrivains ou des écrivaines qui ont disparu ou qui n'ont pas laissé de traces. Et donc, cette présence des fantômes, ce questionnement sur ce que pèsent nos existences ou ce que pèse le passé en nous m'intéresse beaucoup. Donc, je trouve tout à fait mon compte dans cette rentrée.
Moi, je relèverais, quand même, c'est vrai qu'il y a un drôle de symptôme qui est arrivé, c'est vraiment papa-maman, d'un coup, de façon très, très prononcée, sans que les auteurs se soient concertés. Et là, quand même, de façon très massive, c'est-à-dire que ce soit Vanessa Schneider, que ce soit Camille de Toledo, que ce soit...
Yakuta Ali Kavazovic.
Yakuta,
que ce soit
Régis Geoffrey, que ce soit, Carrère, que ce soit aussi Mauvignier. Donc, cette idée de repli, enfin, moi, ce que je ressens actuellement, c'est vrai qu'il n'y a pas le saut vers le monde extérieur, sauf quelques livres qu'on peut parler. Il y a aussi des livres sur l'écologie, il y a des livres sur la guerre, il y a des livres aussi sur l'intimité des femmes qui continuent de s'ouvrir et d'être explorées littérairement d'une façon justement de plus en plus précise, comme celui de Chloé Delhomme, comme celui de de Natacha Appanah. Là, on reprend ce flambeau, comme celui Tout détruire sur ces faits divers d'assassinat de femmes. On reprend ce flambeau là, quelques écrivaines reprennent ce flambeau mais pour l'explorer à nouveau et lui réinjecter des éclairages et une exploration surtout littéraire. C'est-à-dire que ce n'est pas des récits qui déballent, c'est qu'est-ce que la littérature vient apporter de différent et de précis et de particulier à tous ces nouveaux, ces dévoilements de l'intimité des femmes et de la violence faite aux femmes. Mmh. Donc ça, c'est un des aspects. Maintenant, sur Papa, Maman, alors moi, je trouve que c'est un indicateur du repliement que moi, je ressens quand même des lecteurs. C'est un peu, on se retourne vers sa filiation, vers sa famille, les défaillances de cette famille, mais aussi sur les questionnements, puis cette appartenance qu'on a à sa famille et tout. Donc bon, moi, c'est, il y a des livres superbes, hein, vraiment, il y a des livres très intéressants que j'ai lus, hein, d'ailleurs, tout de suite. Mais c'est quand même un indicateur qui me dit que quand même, on ne fait plus le saut vers l'imaginaire, ni l'exploration du monde, ni la création de monde. Donc ça, c'est une sorte de symptôme qui m'a un peu... comme ça, inquiétée.
Brinda Sitanen, vous êtes...
C'est un sujet, évidemment, littéraire.
Oui, moi, c'est un sujet... Je trouve qu'il était un sujet... La famille, c'est un sujet inépuisable. C'est vrai que... Enfin, après, les romans, ce qu'on appelle l'autofiction, ça prend des formes différentes selon qui l'écrit. Mais je trouve qu'il n'y a pas que ça. Moi, je trouve que le roman, en tout cas, le roman français, explore aussi les questions de société. Mmh. Et puis, laisse la part aussi à la fiction. Je pense à Laurent Godet, qui est un auteur qu'on aime beaucoup. Enfin voilà, qui sort la suite de sa dystopie qui s'appelle Zem aux éditions Actes Sud. Je pense à Lola Gruber, Elisabeth Lima, c'est de la pure fiction avec un portrait au vitriol du monde de l'édition.
Céline Minard.
Céline
Minard, bien sûr. Ouais.
Absolument. Donc je trouve que chacun trouve son compte. En fait, chacun peut y trouver son compte.
Oui. Et je reste avec vous. Quelle est la part de la littérature étrangère là? Parce que en fiction, il y a beaucoup de choses en littérature étrangère.
Oui. Absolument, il y a énormément de choses et c'est vrai que peut-être la littérature étrangère explore un peu plus l'extérieur, le monde extérieur. Moi, je viens de terminer le roman de Liv Shafak qui est de la pure fiction à la manière de Salman Rushdie, avec des mondes imaginaires, mais en même temps avec une réalité politique sur les Yéménites qui est très violente. Et la littérature étrangère, c'est un marché difficile, hein, ouais. De plus en plus. C'est vrai que comme disait Marie-Rose, on a le sentiment chez les lecteurs français qu'il y a un repli. Effectivement, il y a un repli. Un repli, mais... Moi,
un manque de curiosité les récits qui s'éloignent de notre réalité.
Oui, qui nous dérange aussi, qui nous bouscule un peu. Alors, de plus en plus, moi, j'ai cette demande, je voudrais un bon roman qui ne parle pas de la guerre. Où il n'y ait pas de guerre, où il n'y ait pas de... Voilà. Et donc ça, c'est difficile de trouver des romans qui... Bon, alors là, effectivement, on est servi, mais par exemple, si on lit le roman Vignier, il y a quand même des traces de la guerre. Une histoire familiale, c'est pas évident.
Héloïse Adam, vous ressentez la même chose, ce repli dont on parlait?
Oui, alors je le ressens pas comme un repli, d'autant que je trouve que beaucoup des récits familiaux dont on parle, en fait, ouvrent vers l'imaginaire. Je pense au très beau livre de Yannick Lahens sur les passagères de nuit, qui explore son histoire familiale, mais qui le fait de manière extrêmement romanesque, en laissant une part presque au fantastique. Je pense aussi à des récits historiques comme celui de Paul Kavsak, qui est très, très documenté, très imprégné de la réalité, et qui en même temps se permet des incursions absolument formidables dans l'imaginaire. Donc je ne vis pas, en tout cas, j'ai pas le sentiment d'un repli.
Je parlais des lecteurs, pas des auteurs qui se tournent vers des livres où on n'est pas dépaysé dans les périodes de crise.
Où on n'est pas inquiété, peut-être.
On n'est pas inquiété et pas dépaysé, pas trop déplacé. On est dans le connu. Les crises créent quelque chose de très particulier. C'est on ne va pas trop vers l'inconnu. On veut identifier vers le roman thématique. Alors moi, je trouve que la littérature, justement, n'est pas thématisable, justement, parce que c'est selon la langue, selon le dispositif. On peut parler de sa mère, mais en même temps, c'est la forme aussi qui compte, c'est les perceptions qui surgissent du récit, qui transforment ce regard sur la mère. Donc, c'est pour ça que quand on thématise en disant les mères, les guerres, l'archéologie, c'est un peu facile. Et c'est pas ça, la littérature. Mais moi, je vois que dans les périodes de crise, effectivement, les lecteurs s'aventurent moins vers l'inconnu.
Moi, je me demandais, Héloïse Adam, si cette fièvre qui s'empare de nous à la rentrée littéraire, est-ce qu'elle s'empare des lecteurs aussi, et des lectrices, et est-ce que c'est pas un truc très parisien, voire parisianiste, cette frénésie?
Alors, il est possible que nous, étant peut-être moins en contact avec le milieu éditorial, le milieu des autrices et auteurs, où on ne soit pas impacté de la même manière que vous. Après, ça reste une période particulière avec, je trouve, une espèce de léger déplacement des interactions avec les clientes et les clients. Habituellement, on nous dit, bon bah voilà, voilà ce que j'aime, voilà quel type, voilà quel est mon type de plaisir littéraire, qu'est-ce que vous me recommandez à moi spécifiquement. Puis au moment de la rentrée littéraire, ça se déplace un petit peu, c'est alors quels sont les bons livres de la rentrée, comme si d'un seul coup il fallait tomber d'accord sur une mesure commune, une définition de la littérature, ce qui est évidemment totalement insoluble, mais qui donne lieu à des conversations très intéressantes et un petit peu différentes des conversations habituelles qu'on a.
Alors on disait aussi, la librairie aujourd'hui, c'est plus du tout seulement un endroit où on vient acheter un livre. De toute façon, c'est jamais un endroit où on vient juste acheter un livre, puisqu'on vient d'en avoir la preuve avec les discussions qu'on peut avoir et qui sont forcément très intimes, très rapidement. Mais il y a aussi beaucoup d'événements maintenant liés à les prix littéraires.
Des lectures. Des rencontres.
Voilà. Et moi, je voulais savoir de quelle façon ça peut teinter une rentrée littéraire et comment on intègre la rentrée littéraire dans ces événements-là, en fait. Je vous écoute.
Oui, alors c'est vrai que c'est une programmation, enfin, c'est tous ces événements, toutes ces rencontres qui ont lieu à la rentrée sont très attendues par notre clientèle à Vincennes. Il y a un temps de rupture qui est l'été où là, bon, c'est le temps de la lecture. Mais c'est vrai qu'on sent qu'il y a une attente quand même pour tous ces événements qui arrivent à la rentrée. Et c'est un vrai défi chaque année pour nous, de à la fois de se renouveler, à la fois d'inviter les auteurs qu'on aime, à la fois inviter les auteurs dont on va un petit peu parler, parce qu'il s'agit aussi de faire plaisir en fait à nos lecteurs, et donc c'est pas évident de trouver le juste milieu, mais c'est vrai que ça participe clairement de la vie culturelle de la ville.
Vous arrivez à en organiser, Héloïse Adron?
Oui, bien sûr.
Voilà. Bien sûr. Les auteurs viennent avec plaisir.
Et... Tout à fait. Il n'y a pas de gare à Concarneau, mais pour autant, on arrive à faire venir quelques autrices et auteurs déterminés à rencontrer leur public. Donc oui, c'est aussi le moment où on est en train de construire notre programmation culturelle d'automne, et c'est très stimulant. Alors, c'est pas seulement autour de la rentrée littéraire, mais en partie, évidemment.
Mais en fait, à ce moment-là, vous êtes vraiment au cœur de la cité. C'est-à-dire que vous faites partie, effectivement, de l'offre culturelle qui gouverne la cité. Une librairie est un lieu, voilà, qui apporte la culture, vraiment, la vie.
Il faut rendre dans la proximité des lecteurs, il faut rendre cette rentrée littéraire très vivante. Il ne faut pas que ce soit des lettres mortes, qu'ils soient des livres. Donc, la mission, un peu, c'est d'essayer de faire en sorte de faire entendre et de leur donner le goût, les désirs de se déplacer pour entendre encore des lectures, des textes, la pensée d'un écrivain qui n'est pas celle d'un sociologue, qui n'est pas celle d'un politicien, qui n'est pas... Donc vraiment... Et puis, pour ce qui me concerne, je sais que je veux me déplacer aussi également là où il y a des publics. Par exemple, dans les cinémas, il y a un livre qui va être adapté de Fatima Das, qui est aussi dans cette rentrée. Donc moi, j'essaye aussi de faire venir l'auteur dans
dernière,
le cinéma.
Voilà.
Où là, les gens se déplacent.
Marie-Rose Gagnéry, je vous coupe la parole parce que je vois le temps qui passe et qu'on a décidé aussi de vous laisser la parole pour des coups de cœur. Donc, je vous donne la parole pour votre premier coup de cœur.
Bon, le premier coup de cœur, moi, c'est un premier roman que j'ai repéré dans cette rentrée littéraire qui est très amusant, qui est très surprenant. Donc, c'est... Il pleut sur la parade, c'est chez Gallimard. Le nom de l'autrice, c'est
Lucienne Belgi.
Voilà, Anne Belgi. Alors il s'agit d'un couple, le mari est juif, la femme est athée, n'est pas juive et non juive, et ils vont avoir un enfant. Et cet enfant, l'énigme et le suspense de ce livre, c'est que cet enfant est archi-violent. Ils n'arrivent pas à comprendre pourquoi cette violence, et donc ça les marginalise évidemment dans les sorties d'école. On peut plus les fréquenter, il n'est plus invité. Donc la question du livre, ça va être: d'où surgit cette violence qui est absolument incompressible, et vous allez avoir comme ça quelques lumières autour de ce, pourquoi on peut être violent et d'où surgit la violence. Bon, c'est un livre que j'ai trouvé très amusant et en même temps très pertinent et surprenant.
Premier roman d'ailleurs, et il est sélectionné pour le prix Fémina. Bon, je reviendrai à vous après, Brinda Sitanen.
Alors moi j'ai beaucoup aimé un livre d'Adrien Genoudet qui est pas un premier roman, qui est son quatrième roman, qui est un auteur qu'on suit, à qui on avait décerné le prix Mille Pages il y a 3 ans pour Le Chant d'écrit, qui revient avec Nancy Saigon. Adrien Genoudet, il est historien des images et il a une attention particulière à la mémoire. Alors ce qui est assez fabuleux dans ce roman, Nancy Saigon, comme son titre l'indique, c'est une correspondance entre Simone restée en Lorraine et Paul Sansac, commandant parti en Indochine. Le narrateur hérite de la correspondance bien des années plus tard qu'il y a eu entre eux, et l'auteur va essayer de de combler les pages manquantes de cette correspondance. Parce qu'évidemment, Paul Sansac ne raconte pas l'Indochine. Il raconte tout ce qu'il y a sauf l'Indochine, sauf la guerre. Il raconte les moments d'attente, il raconte les moustiques, mais il raconte absolument pas la violence de la guerre. Et Adrien Genoudet a ce qui est assez merveilleux, c'est qu'il a une plume, mais extraordinaire. Voilà. Et si vous ne l'avez jamais lu, vraiment, allez-y.
Alors, Nancy Saigon d'Adrien Genoudet, c'est au seuil. Héloïse Adam.
Alors, moi, dans la famille des livres qui explorent les histoires familiales, Les Déterrés de Katia Belhodja brillent d'un éclat particulier pour moi. Il révèle le quotidien plein de tendresse et d'humour de trois cousines qui ont émigré au Canada depuis l'Algérie dans les années 90. On suit leurs discussions et on les voit déployer un arbre généalogique. Elles nous font traverser les blessures de deux guerres mondiales, de la colonisation, des usines françaises pleines d'amiante, de la décennie noire algérienne. Et on voit que ça produit chez elles des fantômes, des blocages, mais aussi des relations très émouvantes, parfois hilarantes, à la langue, au savoir. Et on lit ça et on se sent vraiment comme une cousine lointaine qui est à table avec elle et qui est traversée par ses destins familiaux.
Alors, Les Déterrés de Katia Belhodja, c'est chez Mémoire d'Encrier. Il nous reste un tout petit peu de temps pour un deuxième coup de cœur, mais vraiment rapidement, Marie-Rose Gorniari.
J'ai été très touchée par le livre de cette journaliste chez Flammarion sur Yann Andrea Steiner, qui a accompagné la vie de Marguerite Duras. Et donc, c'est cet homme qui est fantôme, qui est devenu le fantôme de lui-même, a accompagné cette œuvre, a été le créateur aussi de cette œuvre. Et j'ai beaucoup aimé qu'on relève cet homme de l'ombre. Mmh. Et qu'on lui redonne cette place importante qu'il a eue dans l'accomplissement et ce qu'est advenu Marguerite Duras.
Donc c'est Yann dans la nuit de Julie Braffman et c'est chez Flammarion. Brinda Sitanen.
Alors moi je l'ai pas repéré puisque il est arrivé à moi par les médias Ramsès Kéfi, 4 jours sans ma mère aux éditions Philippe Ray, qui est un roman qui est absolument tendre et plein d'amour, qui parle d'une quête des origines, mais qui parle aussi, et c'est ce qui m'a plu, d'une époque donc ça se passe en banlieue, la banlieue d'une cité de la cité de la caverne dans une banlieue proche d'une forêt et qui est une banlieue où vivent en communauté vivent en bonne entente toutes les communautés. Mmh. Et c'est ça qui m'a plu aussi, c'est cette idée d'amour et de fraternité qu'il dépeint dans son roman, en plus évidemment de ce portrait de mère absolument exceptionnel.
Ramsès Kéfi, 4 jours sans ma mère chez Philippe Ray, premier roman, il faut le préciser, sélectionné pour le prix Renaudot et le prix Renaudot des lycéens. Héloïse Adam, il vous reste un petit peu de temps pour votre deuxième coup de cœur.
Eh bien, je suis allée piocher dans un rayon un petit peu à côté, mais qui pour moi fait pleinement partie de la rentrée littéraire. C'est le rayon de la littérature pour adolescents et pour jeunes adultes. Et je vous recommande le livre « À croquer » de Anne-Fleur Multon, qui est d'une créativité, d'une inventivité absolument folle. Je crois qu'on ne peut pas plus clairement dire la vulnérabilité et la force adolescente. Donc si vous cherchez de la littérature ultra contemporaine qui vibre et qui palpite, c'est là.
Parfait. Anne-Fleur Multon a croqué chez Thierry Magnier. Héloïse Adam, Brinda Sitanen, Marie-Rose Guarnieri, merci beaucoup d'être venue dans les Midis de Culture et j'espère qu'on se retrouvera à l'occasion. Et vous qui nous écoutez, eh bien maintenant, à vous de vous faire une idée évidemment.